cette fois-là, parce qu'il n'avait pas pu le supporter. Alors il avait tué son frère. Mais les autres, pourquoi les autres, pourquoi son père et sa mère? Il avait longuement cherché une réponse. Il en avait donné plusieurs qui ne semblaient guère le convaincre. Sur le coup, il lui avait semblé qu'il convenait d'aller jusqu'au bout et de finir ce qu'il avait commencé. Ou alors, il ne lui avait rien semblé du tout. Simplement, il avait eu désespérément besoin de silence. Et c'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour faire cesser leurs cris. Et puis, n'était-il pas cruel de les laisser vivre? Il venait de tuer son frère devant eux. Sa belle-sœur, ses parents, sûrement, ils n'auraient pas pu le supporter. Ils en seraient tous morts de chagrin. Il regardait Séverine Bogossian, puis son collègue, d'un air candide et un peu inquiet, comme s'il craignait de ne pas avoir satisfait leurs attentes. Elle aurait voulu croire qu'il lui cachait quelque chose, un secret trop longtemps enfoui dans les gouffres obscurs de son cœur blessé, le martyr d'une enfance brisée qui aurait soudain réclamé vengeance sous le soleil de juin, une ancienne trahison impossible à pardonner dont le douloureux souvenir aurait attisé le brasier de la fureur, quelque chose, n'importe quel mobile qui pût être rationnellement mis en relation avec la sauvagerie de ce massacre. Mais l'homme qui la regardait ne cachait rien. Il avait exposé ses raisons, si dérisoires fussent-elles, avec une entière sincérité. Séverine Bogossian aurait préféré ne pas les entendre. Elle aurait préféré croire que ce qui s'était passé n'avait pas plus de sens que la collision d'une astéroïde, un séisme ou un raz-de-marée, le déchaînement aveugle d'une puissance naturelle dont on pouvait éventuellement se protéger mais qu'il était inutile de chercher à comprendre, une puissance innocente et mortelle, pure, sans volonté, sans cruauté ni remords. Dans sa longue et épuisante fréquentation du crime, Séverine Bogossian n'a jamais cessé d'être sidérée face à la disproportion presque systématique existant entre les actes dont avait été le témoin et les raisons qui les avaient fait advenir, comme si la chute virevoltante d'une feuille d'automne creusait dans le sol un cratère. Une disproportion si incommensurable que Séverine Bogossian a toujours eu le sentiment, en découvrant un mobile, non d'avoir obtenu une explication propre à satisfaire aux exigences de la raison, mais bien au contraire, d'être à nouveau plongée tout entière au cœur d'une énigme qui revenait la submerger et la faisait suffoquer et qu'elle ne résoudrait jamais. Elle n'a pas oublié non plus ce mot posé sur la table du salon dans une grande maison des Yvelines, alors qu'elle était déjà une enquêtrice aguerrie et se croyait libérée de ses illusions. « Maintenant, elle va souffrir comme j'ai souffert. » Les deux enfants étaient à l'étage, dans leur lit, figés dans la position qu'ils avaient adoptée après s'être endormis, l'un sur le ventre et l'autre sur le côté droit. Le père qui en avait la garde pour le week-end était assis dans le canapé du salon, devant la table basse sur laquelle il avait déposé bien en vue à côté d'un verre de whisky presque vide et d'un paquet de biscuits apéritifs à peine entamés, la feuille à laquelle il avait confié le dernier message qu'il voulait adresser au monde. Pour qu'elle ne risque pas de s'envoler, il avait posé sur l'un des coins la bouteille de whisky. La télé était allumée sur une chaîne d'information continue, le volume poussé presque au maximum. Peut-être avait-il eu besoin d'une distraction, d'un endroit où diriger son regard au moment de presser la détente, pour ne pas avoir à y penser, parce que ce n'était finalement pas aussi facile qu'avec les enfants. Maintenant, elle va souffrir comme j'ai souffert. Il allait falloir prévenir la mère. Séverine Bogossian le regardait, et la brûlure de la haine lui consumait le cœur. Elle regrettait qu'il ait trouvé refuge dans la mort. Elle aurait voulu le ressusciter pour pouvoir lui faire du mal, pour lui faire comprendre ce que signifiait la souffrance. Mais il était hors d'atteinte. Et c'était insupportable. Elle aurait voulu croire qu'il se trouvait maintenant en enfer, dans la géhenne du feu où il se tordait dans les flammes pour l'éternité sans jamais comprendre quel était son péché. Car il ne méritait au fond même pas de comprendre. Et elle regardait, autour d'elle, le paquet de biscuits, les glaçons fondus au fond du verre de whisky, les enfants gisant à l'étage dans leurs draps froids, ses collègues aux yeux rougis. Et elle savait que ses désirs étaient vains parce que l'endroit dans lequel il se trouvait offrait déjà une version assez convaincante de l'enfer.